Bonsoir. La police nationale congolaise a présenté hier, mercredi 31 janvier, au moins 182 présumés délinquants, communément appelés Kuluna, devant la presse à Kinshasa. Selon le commandant provincial de la police nationale congolaise à Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, ces présumés malfrats ont été appréhendés par la police des commissariats urbains de la Tchangou, Moamba, Funa, Gombe et celui de l'Anselé. Parmi eux, un élément de la police nationale congolaise appelé Blaise Bila Katushidi avec sa bande, le numéro 1 de la police kinoise, a rapporté que ce policier et sa bande faisaient monter des forces des paisibles citoyens dans un bus de marque 207 pour les dépouiller. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise à Kinshasa a affirmé avoir organisé 3 opérations de bouclage ciblées pour arrêter des présumés Kuluna, sémant la terreur dans la capitale. Qu'est-ce qui explique la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kinshasa? C'est le thème de Dialogue en sport congolais de ce jeudi 1er février 2024. Participe au débat Norbert Yambayamba, directeur du cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Professeur Yambayamba, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Claude Katende, avocat et président de l'Association africaine des défenses des droits de l'homme, ASADO en sigle. Il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Maître Jean-Claude Katende, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et avec moi dans ce studio, Christian Moleka, analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir.
À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5 et si vous êtes en dehors du pays, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur Canal+, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, 182 présumés bandits appelés communément Kuluna provenant des commissariats urbains de la Tchangou, Moamba, Funa, Gombe et celui d'Unsele ont été présentés hier mercredi devant la presse. Parmi eux, un élément de la police nationale congolaise appelé Blaise Bila avec sa bande. Ce dernier faisait monter des forces des paisibles citoyens dans un bus de marque 207 où ils vont les relaxer après les avoir dépouillés. Blaise Sindani était présent à cette cérémonie. Suivez son reportage.
Le phénomène Kuluna a pris des allures inquiétantes dans la ville de Kinshasa. Au grand mot, les grands remèdes, dit-on. Pour honorer sa promesse faite lors de sa prise de fonction de combattre ce phénomène, le commissaire divisionnaire adjoint, le général Blaise Kilimbalimba, explique qu'au mois de janvier, la police nationale congolaise a organisé 3 opérations de bouclage ciblées pour arrêter ces malfrats.
Nous avions décidé de les transférer dans des juridictions militaires pour l'infraction de terrorisme dont tous les éléments voulus affichent au grand complet par les comportements de ces inciviques derrière vous.
En ce qui concerne le quartier Mikondo dans la commune de Kimbanseke, où les Kuluna ont semé la terreur jusqu'à ce qu'une grande partie des habitants ont même abandonné leur domicile, Blaise Kilimbalimba est formel.
Lorsque cela est arrivé, c'est-à-dire ces Kuluna se sont manifestés là-bas, en s'attaquant à tout le monde, immédiatement il y a eu la réaction de la police. Notre groupe mobile d'intervention situé à Kinshasa Est, notamment à Badara, est allé intervenir farouchement.
Les commandants de la PNC ville de Kinshasa ont en fait demandé aux Kinois de se tranquilliser car la police nationale congolaise a déjà mis la main sur le chef des bandes du groupe des bandits qui opérait en faisant monter les paisibles citoyens des forces dans les bus des 107 ou Sprinter pour les rançonner.
Merci Blaise Chindani pour ce reportage. Professeur Norbert Yambayamba, je rappelle que vous êtes directeur du cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Les bandits urbains, appelés communément Kuluna, continuent de s'aimer la terreur dans la capitale congolaise sous les regards, on dirait presque impuissant, de la police ou des autorités de Kinshasa. Les citoyens vivent dans la peur constante, incapables de rentrer chez eux en toute sécurité, surtout aux heures tardives. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kinshasa?
Je voudrais vous remercier très sincèrement de m'avoir donné cette opportunité pour parler de cette question qui intéresse l'ensemble de notre peuple. Et je salue en passant mes co-débatteurs, notamment Jean-Claude Katende et notre ami Moleka. Mais la question de la sécurité est une question d'attribut de souveraineté. Il ne faut pas dire qu'on regarde un puissant ce qui se passe. À nous, il y a une série de mesures. Il y a une série de mesures qui ont été prises. Et vous savez que ce n'est pas la première fois que le Kuruna opère. Et de tout le temps, vous avez toujours entendu qu'on a arrêté tel, qu'on a arrêté tel. Il y a même des kidnappeurs. Et vous savez qu'il y a eu, il n'y a pas longtemps, une audience publique où les kidnappeurs, ces soi-disant bandits ont été arrêtés et puis emprisonnés. C'est que quelque part, il y a un travail. Et vous avez suivi le commissaire provincial vous dire qu'on n'arrête pas d'arrêter. C'est Kuruna.
Mais apparemment, ces mesures sont inefficaces.
Les mesures sont toujours inefficaces. C'est comme ça qu'on voudrait quand même qu'il y ait une sorte d'intelligence collective, de participation collective des différents acteurs qui sont concernés. À la fois les acteurs étatiques, notamment la police et tous les différents services de sécurité, y compris la population. Imaginez-vous que le ministère a mis déjà en place ce qu'on appelle des comités provinciaux de sécurité dans le cadre de la gouvernance sécuritaire. Au niveau de l'échelon communal, il existe également des comités. Et dans ces différents comités, la particularité et l'innovation, c'est que vous avez les autorités locales, vous avez la police et les différents services de sécurité, mais vous avez également la population représentée par des corps intermédiaires, que ce soit la société civile. Et ces comités, certes, n'ont pas encore suffisamment été rendus opérationnels. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont les policiers qui s'occupent de cette question. Encore qu'il faut le reconnaître, on est en train de recruter les policiers. Lorsque vous voyez la ville de Kinshasa, une dizaine de millions de personnes, c'est pas facile. Et puis, lorsque vous regardez les profils de tous ces Kurunas, etc., vous avez d'une part ceux qui sont des chômeurs, qui n'ont pas trouvé de travail, mais qui véritablement les profils pour travailler. Et vous avez également des gens qui, sans soutien, compagnie, etc., sont dans la rue. Ils faisaient partie des enfants en situation de détresse. Et donc, nous avons ces gens-là qui opèrent de manière non conventionnelle et qui constituent véritablement un challenge pour le gouvernement ou le ministère de l'Intérieur et Sécurité à faire pécuniaire. Alors maintenant, est-ce qu'il faut vraiment terminer? Du coup, moi je dis, mais c'est un travail qui existe, qui doit rester permanent, encore que la dose de chance soit diminuée de manière sensible, et nous avons tenté avec la deuxième intervention. Aujourd'hui, on est suffisamment informés sur le mode opératoire, et nous sommes en train de nous organiser pour éradiquer.
Mais nous n'allons pas nous arrêter. Ce phénomène n'a pas commencé aujourd'hui, professeur Yamba Yamba. Il y a eu des mesures prises par le gouvernement, notamment des opérations de sécurité, des effectifs de la police supplémentaires déployés pour justement maîtriser ces bandits urbains appelés communément Kuruna, mais cela n'a pas donné les résultats.
Madame, oui, nous professeur. À 2001, je travaillais moi-même comme assistant social. Il y avait plus de 22 000 enfants de situation en situation difficile, ce qu'on appelait autrefois les enfants de la rue. Et nous avons fait une projection en disant, si on ne fait pas un encadrement par rapport à tous ces enfants, qui avaient l'âge moyen de 10 ans, c'est que très clairement dans 10 ans, ce sont des adultes, mais qui deviendront un danger public pour la République. Et c'est ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Et donc, nous avons deux types de solutions. Il y a la solution de reprimande qui est axée sur les infractions commises, les infractions de droit commun, compagnie, etc. Les actes qu'ils posent, il y a des pénalités par rapport à ça. Mais un deuxième type qui permet la socialisation et l'intégration, n'est-ce pas, de ces Kuruna, parce qu'en réalité, ce sont des Congolais. Ils méritent véritablement un encadrement. Et vous avez vu le système Kanyamakasese, etc., ça a donné quand même des résultats. Certainement que Kanyamakasese a des espaces limités, a des moyens limités, etc. Et la volonté du gouvernement, c'est d'élargir véritablement cette approche dans les différentes provinces. Et quand on arrivera dans les provinces où on trouve des centres de socialisation, d'encadrement, d'intégration, n'est-ce pas, de tous ces jeunes gens qui deviennent utiles à travers le métier qu'ils peuvent opérer. Et donc, nous aurons à la fois la police pour faire le travail, la répression, mais nous aurons également l'intégration dans la société. Ils deviennent utiles parce qu'en réalité, nous avons besoin qu'ils s'intègrent dans la société. Voilà un peu les différences d'approche. Encore que, bon, au niveau des communes, que les bourgmestres travaillent, vous ne pouvez pas imaginer que, bon, la situation se pose au niveau des communes. On appelle seulement le commissaire provincial, et pourtant, à ce niveau-là, on peut prendre un certain nombre de dispositions, etc. Et puis, au niveau des villes, etc. Donc, nous avons aujourd'hui la responsabilité, au regard de l'observation, d'opérationnaliser les comités provinciaux, n'est-ce pas, de la sécurité, les comités locaux de sécurité, etc., pour permettre à ce que s'il y a des bandits, s'il y a des coulounas dans un quartier, il faut qu'il y ait une police de proximité. Là aussi, ça nécessite un peu de moyens. Et nous y mettons notre action autour de ça.
En parlant de la police, professeur, plusieurs sources rapportent qu'il y a une forte collaboration, une complicité entre ces présumés coulounas et certains policiers, même lorsqu'on prend des dispositions pour aller les arrêter ou les interpeller. Ces coulounas sont déjà informés par la police.
Eh bien, c'est justement ça, mais madame, vous avez vu la dernière, le dernier procès qui a eu lieu au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. Vous avez vu que les policiers ont été arrêtés, les complices ont été dénichés et ils ont été sanctionnés. La complexité de ces problèmes non conventionnels, avec toutes les difficultés afférentes par la vie de tout un chacun, pose des actes incontrôlés. Mais nous n'allons pas croiser les bras, il faut savoir les identifier. C'est comme ça que vous avez vu dans la série d'essais qu'on a arrêtés, etc. Et ça, il y a aussi certains policiers, etc. On va continuer à pouvoir les traquer, croyez-moi, mais il ne faut pas demander que ça se termine le même jour, parce que c'est une question complexe. Et dans une question complexe, on ne peut pas chercher des solutions simples à des questions complexes. Nous sommes en train de travailler, encore que bon, ce soit l'affaire de tout le monde, où on trouve dans un quartier, chaque famille devient véritablement l'agent d'information, où on sait identifier que dans telle parcelle, il y a telle ou telle personne, on en fait même une liste, et on sait voir qui vient faire quoi. Je me rappelle que je suis du côté, sur la route du Matadi, etc., mais nous avons été également attaqués. Mais qu'est-ce que nous avons fait? On a organisé, n'est-ce pas, les gens dans les quartiers avec de Motorola, on identifie les différents hôtels où il y a, naturellement, ces gens viennent et poser des actes, beaucoup en fuient. Voilà. Donc, il faut que la population se réveille et que la population soit des agents d'information. Vous ne pouvez pas avoir une famille où on trouve des hommes dangereux et suspects et puis on n'informe pas aux sous-chefs qui est proche. C'est pas possible. Là aussi, le gouvernement de la République a pris des responsabilités, non seulement pour recruter la police de manière à pouvoir, n'est-ce pas, le dispatcher à travers les différents sites, mais également y mettre des moyens pour que les équipements soient achetés, pour que la police soit bien payée, etc. Et donc, ce sont ces défis-là, ce sont ces challenges-là qui nous préoccupent et qui, visiblement, deviennent notre cheval de bataille.
Professeur Yamayamba, j'imagine que vous avez vu la vidéo qui est devenue presque virale hein, sur les réseaux sociaux dans le quartier Mikondo à Kimbanseke. Des familles entières abandonnent leurs habitations, leurs maisons pour fuir les coulounas. C'est eux qui font la loi dans ces quartiers-là. Et même la police qui était présente dans ce quartier a fui. Est-ce que vous avez pris des mesures pour ce quartier, par exemple, ce quartier-là?
Mais déjà, madame, pour avoir l'information, il faudrait quand même qu'il y ait quelqu'un qui donne l'information. Et donc, dans les différents quartiers, et je connais le quartier Mikondo, il existe une police de proximité. Et je crois que l'information est arrivée en destination. Il ne faudrait pas demander pas au vice-premier ministre, encore qu'il a le droit de regard pour que finalement les choses soient normalisées, mais il y a aussi un commissaire provincial. Et en dehors du commissaire provincial, il y a un commissaire au niveau de la commune, etc. Et qu'à ces différents niveaux d'atterrissage, on a besoin véritablement que chacun puisse actionner ses responsabilités. Cette question est entendue Et le déploiement a été déjà fait, et je crois qu'aujourd'hui, c'est sous contrôle. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Songololo, c'est pas à Kimpese, etc. Mm-hmm. Même le vice-ministre a été dépêché, pour aller voir ce qui se passe, etc. Le calme est encore revenu. Encore que bon, on va pas croiser les bras, parce qu'effectivement, les mêmes personnes vont continuer à poser des actes. Mais nous sommes en train de prendre des mesures, madame. On ne peut pas former la police aujourd'hui et avoir la formation le même jour et les dispatcher le même jour. Le travail se fait parce que c'est un travail fondamentalement technique.
Merci.
Nous sommes en train d'y travailler. Et donc, il va falloir que les gens proposent un certain nombre de mesures aussi. On nous propose des solutions. La société se gère dans une intelligence collective. On a besoin d'écouter les uns les autres, mais il ne faut pas simplement dire...
On va écouter la société civile, on va écouter Maître Jean-Claude Katende, qui est avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO en sigle, et vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Maître Jean-Claude Katende, qu'est-ce qui pourrait être, selon vous, à la base de ce phénomène, Kuluna? C'est vrai que ça ne va pas commencer aujourd'hui, mais ça prend de plus en plus de l'ampleur, malgré les mesures prises par les autorités, la situation ne s'améliore pas.
Bonsoir madame, merci pour la question. Je salue monsieur Yamba Yamba. Et je pense que c'est pour la deuxième fois que lui et moi nous intervenons sur la radio Okapi en ce qui concerne cette question importante. Tout ce qu'il a dit, je pense qu'il a... Il a identifié certains points importants, mais j'estime personnellement que le phénomène Kuluna aujourd'hui continue à cause de la faillite de l'État. C'est l'État qui est à la base. Je le dis pourquoi. Rappelez-vous qu'il y a eu dans ce pays l'opération Likofi, où plusieurs Kuluna ont été exécutés sommairement par la police. Et il y a eu une accalmie. On croyait que le phénomène allait prendre fin, mais le phénomène est toujours là. En dehors de ça, il faut noter le fait qu'il n'y a pas de politique du gouvernement en ce qui concerne la lutte contre le Kuluna. Ce sont des actions sporadiques quand on constate que les habitants de telle commune ou de telle autre commencent à s'inquiéter, à s'alarmer. On organise une opération. On va ramasser les Kuluna, on les amène, comme on l'a vu à la télévision, ce qui est déjà une bonne chose. Mais il faut dire que ce sont des actions sporadiques. Il n'existe pas de politique, alors que l'État est menacé. Les citoyens sont menacés, mais le gouvernement n'a pas une politique bien structuré de lutte contre le Kuluna. Et ça, c'est le vrai problème. C'est pour ça que nous constatons, par exemple, qu'on met l'accent de manière importante sur les interventions de la police, alors que ce phénomène, pour y mettre fin, il est clair qu'il faut plusieurs solutions. Au niveau de la police, au niveau de la justice, au niveau de la société, au niveau aussi social. Contrairement à ce que M. Yamba Yamba dit, c'est vrai que dans le Kuluna, il y a des jeunes dont il a parlé, qui étaient dans la rue à 10 ans, il y a quelques années. Mais ce qui est étonnant avec ce phénomène, c'est que vous avez même des universitaires, filles comme garçons, dans le Kuluna. Ça veut dire tout simplement que aujourd'hui, l'État n'est pas capable de créer des conditions qui permettent à ceux qui terminent leurs études de trouver de l'emploi. C'est ça le vrai problème. Prenez le temps, le matin, de passer par Njili, Kimbanseke. Le matin, vous allez trouver que des jeunes gens sont en groupe en train de boire à 6h ou 7h du matin. C'est inacceptable. Donc, il y a ce phénomène qui fait que si on ne trouve pas de solution qui soit pluridimensionnelle, il est clair que l'opération qui est en cours maintenant va aussi échouer. Il est important qu'on tienne, comme nous l'avions demandé en 2013, des états généraux sur la situation de Kuluna. qu'on fasse participer les psychologues, les agents sociaux, qu'on fasse participer les juristes, en fait toute la société. Parce qu'aujourd'hui, il est clair, comme vous l'avez souligné, que les Kulouna ont leurs amis dans la police et que certains policiers ont été recrutés pris parmi les Kulouna. On les a intégrés dans la police sans tenir compte d'aucun paramètre qui puisse permettre à ce que nous ayons une police disciplinée et capable de protéger, en fait, d'assurer sa mission constitutionnelle. Ce qui fait que certains policiers au sein de la police s'organisent avec les Kulouna pour, n'est-ce pas, attaquer les citoyens. Un point que j'estime aussi important, quand j'ai parlé de la faillite de l'État, c'est le fait qu'aujourd'hui, les Congolais n'ont pas confiance dans la police. La confiance entre la police et les citoyens est totalement rompue à cause du fait que certains policiers sont corrompus, certains policiers sont parmi les bandits qui attaquent les maisons des citoyens pendant la journée, en sorte qu'aujourd'hui, si vous rencontrez un policier la nuit, vous avez peur. Vous n'avez pas le temps de vous approcher de lui. Il faut reconstituer cette confiance et il faut y travailler. Dans les solutions que M. Yambayamba a présentées, il n'y a pas cette question de faire en sorte que la police et les citoyens deviennent en fait un seul corps. C'est pour ça que vous voyez dans certaines avenues, on connaît les Kulouna, mais on ne les dénonce pas. Et les membres de famille qui les connaissent ne les dénoncent pas non plus, les voisins non plus. Et comment va-t-on mettre fin à ce phénomène si la société elle-même n'est pas conscientisée et que la police ne se donne pas les moyens, le temps de recréer la confiance entre elle et les citoyens? C'est pour ça que je pense que si on veut vraiment y mettre fin, il est clair qu'on doit pouvoir avoir une politique, parce qu'aujourd'hui c'est une question qui se généralise sur l'ensemble du pays. Mm-hmm. Avoir une politique de lutte contre le Kulouna. Vous voyez aujourd'hui, nous avons toujours parlé des motards. Les motards se conduisent sur nos artères sans loi ni respect de quoi que ce soit. Mais l'État observe. Mais ce phénomène va devenir un autre phénomène après le Kulouna, parce qu'on ne saura plus conduire d'ici 10 ans. Si les motards ne sont pas organisés, si les motards ne sont pas disciplinés, si on ne leur apprenne pas les règles élémentaires d'usage de la route publique, c'est un autre problème. Mais l'État est calme. L'État n'intervient pas. L'État ne fait aucun effort. Vous allez vous rappeler que dernièrement, il y a eu une trentaine de motards qui ont été fauchés dans les accidents vers Nselé et Maluku. Parce que ces gens, au lieu de s'égarer en dehors de la route, ils s'égarent sur la route. Et l'État n'intervient pas. Donc, tous ces citoyens semblent être plus forts que l'État. Mais dans ces conditions, nous aurons une autre catégorie de Kulouna, mais qui vont être sur les motos d'ici quelques années.
L'État est où? Christophe Molek, analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC, recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kinshasa, faillite de l'État.
Effectivement, je partage ce constat de faillite de l'État. Il faut déjà dire que le phénomène Kulouna est un phénomène urbain qui se construit dans les grandes villes. Ce n'est pas une réalité uniquement congolaise. Ça se développe parce que c'est lié à la concentration urbaine, à la pauvreté, à la chômage de masse, à la jeunesse chronique, à la promiscuité, au sous-équipement. Vous ne trouverez pas ce phénomène en milieu de campagne. C'est très rare d'avoir des Kulouna en campagne. On les a dans les grandes villes. Et donc, puisque nous avons également cette tendance à la concentration urbaine comme Kinshasa, cette situation va se développer parce que d'ici 2025, on aura centaines de millions de gens. Maintenant, chez nous, elle est plus grave parce que l'État est faible, totalement faible. Nous sortons de campagne électorale. Ce qui se passe durant la campagne électorale, c'est que la police est sollicitée pour sécuriser les élections, pour sécuriser les processus et les listes électoraux. Et donc, dans un pays où vous avez des sous-effectifs, lorsque les effectifs sont alignés sur les questions électorales, vous manquez de policiers sur le terrain. Ensuite, c'est que durant la période de campagne électorale, les politiciens instrumentalisent la jeunesse. Ça, beaucoup le savent. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'en sortie des élections, nous ayons cette recrudescence du phénomène Kulouna, parce que c'est également lié aux agendas politiques dans lesquels nous sortons et qui est un élément accélérateur de cette violence dans les quartiers liée aux enjeux politiques. Et troisièmement, c'est que comme l'a dit mes prédécesseurs et je partage également, La sécurité est un concept global. On ne peut pas résumer la lutte sur la sécurité aux moyens répressifs. C'est vrai, il faut un État fort. Et l'État fort, ce n'est pas uniquement la police. C'est que l'État commence par le bas, c'est-à-dire par la rue. Or, dans une ville comme Kinshasa, les chefs de rue n'ont pas de statut. Je crois que le directeur de cabinet me suit. Les chefs de rue n'ont pas de statut. Comment va-t-on faire la sécurité au niveau le plus bas si les chefs de rue n'ont pas de statut? Si les chefs de quartier n'ont pas suffisamment de ressources pour travailler à leur niveau? Si les communes n'ont pas suffisamment de ressources pour travailler? Et si la police elle-même n'est pas suffisamment équipée? Ensuite, les policiers sont cantonnés dans la cité. Lorsqu'on dit que les policiers sont avec les Kuluna, c'est parce qu'ils vivent dans la cité, alors qu'ils ne sont pas censés vivre dans la cité. Est-ce que le gouvernement travaille à cantonner les policiers dans les bons camps? C'est qu'on a Kambumba, on a Kandufungula, il n'y a qu'à voir l'état de ces camps de policiers, c'est misérable. Quand vous avez cette cohabitation entre policiers et civils dans la cité, ça conduit au phénomène Kuluna. Ajoutez au fait qu'à Kinshasa, tout le monde le sait, on a un développement de la toxicomanie. Dans tous les coins des rues, on vend de la bière frelatée. Tout le monde connaît le Sopunatolo, tout le monde connaît ce qu'on appelle, l'expression mes fruits, ça va venir, pâte à rôder. Ça se vend dans les rues de Kinshasa. Ça se vend dans toutes les rues. Ceux qui tiennent le plus souvent les Nganda où on vend la drogue, c'est les dépendants des militaires, soit femmes des militaires. C'est connu, les études existent. Si on n'arrive pas à cantonner militaires et civils en dehors des cités, si on ne règle pas la problématique de la toxicomanie, et toutes les bières frelatées qui se vendent à Guénec, tranquillement dans la ville de Kinshasa. Si on ne règle pas l'État par le bas, c'est-à-dire remettre en place la petite territoriale, la rue, le quartier, la commune, doter la police des moyens suffisants, on ne réglera pas le problème parce que l'État, il est super faible. Le ministre parle de la gouvernance locale sécuritaire, qui est une réforme importante de la police, mais ce n'est pas mise en place. En tout cas, elle n'est pas opérationnelle. Parce que dans ce dispositif-là de la gouvernance locale sécuritaire, il est prévu des forums de quartier. On devrait avoir des conseils à partir du quartier. On n'a pas de forum de quartier. J'ai fait partie de ceux qui ont lancé l'appel de la vidéo virale sur la sécurité à Mikondo. J'y étais sur place. C'est inimaginable. C'est inimaginable. La vidéo, ce n'est qu'une petite séquence de 3 minutes, mais il faut vivre la réalité. C'est des centaines de gens qui ont abandonné leur maison, qui habitent dans les églises ou ailleurs, parce que la sécurité a atteint des proportions impensable. Et parmi ceux qui accompagnent
selon le PIFCAB, la situation est sous contrôle.
J'ai appelé les gens à Mikondo aujourd'hui. On m'a dit que la police est entrée, mais elle n'est pas arrivée au point de l'épicentre. Elle s'est arrêtée vers l'avenue Lagite, alors que l'épicentre, c'est ce qu'on appelle le quartier Serpondou. Ceux qui sont à Paris connaissent le quartier Serpondou. C'est ça l'épicentre, le doyen Serpondou. Et là, la police n'est pas arrivée. C'est vrai, c'est un bon début que la police puisse entrer, mais il faut qu'ils aillent jusqu'au point de l'épicentre, c'est-à-dire Serpondou, Paille, le doyen. Et jusqu'en bas, quartier Kanza, c'est ça là où il y a l'épicentre de l'insécurité. S'ils n'arrivent pas là-bas, eh bien, c'est vrai que ça peut effrayer certains qui vont fouiller pendant un temps, mais qui pourront revenir après. Et donc, il y a fondamentalement ce besoin de refonder l'État. Et puis, la question de la sécurité, elle est transversale. Je partage également ce point de vue-là. Mais l'insertion par le sport. Si vous êtes à Kimatseke, moi je suis de là. Vous avez énormément de jeunes qui ont du potentiel à faire du sport. Notamment le sport de combat. Moi, je l'ai fait durant la jeunesse. Mais il n'y a pas d'avenir dans le sport du combat. Si vous faites le taekwondo, le shotokan, le judo au Congo, ça vous amène où? Le ministère de sport se résume au football. Nous pensons que le sport, c'est le football. Là, comme c'est la CAN, on sort les moyens. Mais alors qu'il y a énormément de jeunes qui ont du potentiel à faire du sport et qui ont besoin que par le sport, ils fassent de l'insertion. Ailleurs, on construit des tédirineurs qui sont des modèles, des repères dans les quartiers, qui donnent à d'autres jeunes des repères pour grandir. Mais chez nous, nous avons des tédirineurs dans les quartiers. Moi, je connais pas mal de jeunes des Mikondo qui ont le potentiel de faire du judo. Le judo, c'est le deuxième sport à Kinshasa après le football. Le deuxième sport, en termes d'attrait du public. Hein. Mais qu'est-ce qu'on met dans le judo? On ne peut pas uniquement régler sous le répressif. Il faut déployer d'autres approches. Nous sommes dans un milieu où il y a énormément de jeunesse. Nous sommes dans un pays chroniquement jeune. Mais les politiques d'accompagnement, l'éducation non formelle, ça n'existe plus. L'accès, et si vous regardez bien la carte de la sécurité chez nous, les zones où il y a plus d'insécurité, ce sont les zones sous-équipées. Pas de courant, pas d'eau, pas de route. Mais regardez la politique du gouvernement, quand on construit les routes, on construit où? On construit là où c'est équipé, c'est-à-dire Gombe, ma campagne, Limité, des zones où l'infrastructure existe. Et donc on renforce les déséquilibres entre les zones où il y a déjà l'infrastructure et les zones où il n'y en a pas. Et donc comprenez qu'on aille l'insécurité également là où il n'y a pas l'infrastructure. Parce que l'électricité, ça crée de l'emploi.
ça permet à des jeunes d'avoir des petites cabines téléphoniques, d'avoir des machines à foufou, de mettre un petit jeu vidéo, de vendre des trucs de jus frais, uniquement parce que l'électricité. Donc s'il y a un déséquilibre en termes de développement, nous renforçons la sécurité. Donc c'est une question globale qui doit être pensée au niveau de l'État. Malheureusement, notre vrai problème, c'est à ce niveau-là, l'impensé. Et donc des mesures conjoncturelles, telles qu'on prend, c'est bien pour calmer, mais ça ne règle pas fondamentalement les problèmes. On va se rappeler dans 2-3 mois avec les mêmes réalités. Et c'est vrai que la population doit dénoncer, mais pour, vous savez, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous dénoncez les gens, ils sont arrêtés, au bout de 3 mois, ils reviennent dans votre quartier plus fort, puisqu'ils ont été libérés. Et lorsqu'ils sont libérés, ils viennent vers vous dire Tobimi, hein. Tobimi. Et lorsqu'ils vous disent Tobimi, ça veut dire que tu es en insécurité. C'est pour ça que les gens ne dénoncent pas. Moi, je suis allé filmer l'hôpital qui a été fermé, j'ai été menacé. J'ai même dû faire la vidéo sur la moto parce qu'il y avait des risques d'attaque sur ma propre personne. Donc ce n'est pas facile d'appeler les gens à dénoncer s'il n'y a pas la justice qui accompagne ce travail-là. Et donc l'un des volets importants, c'est également notre justice. On arrête des gens qui sont amenés au parquet. C'est vrai qu'on va dire que l'instruction n'est pas très bonne, la phase préinstructionnelle n'a pas été bien faite. La question des OPJ, chez nous, il faut former. Mais lorsqu'ils arrivent au parquet, au bout d'un temps, ils sont libérés. On attend, ils ont payé 100 000, ils ont payé 200 000, 700 000, ils sont libérés. Ils reviennent dans les mêmes quartiers plus forts. Donc c'est finalement un problème d'État, un État qui s'est liquéfié et que nous ne travaillons pas à fonder, à commencer par le bas.
Alors, professeur Yamba Yamba, on va écouter cet auditeur de Kinshasa qui nous appelle pour donner son avis. Alphonse Tchefou de Kinshasa, est-ce qu'il est en ligne? Alphonse Tchefou de Kinshasa, voilà.
C'est Alphonse Tchefou depuis la ville prophète de Kinshasa. Je pense que les Kulunas sont devenus une véritable menace contre la paix. Il faut que l'État congolais puisse prendre les mesures draconiennes urgentes qui s'imposent à tous. Car c'est à l'État qui revient le monopole de la violence légitime. Mais à Kinshasa, ce sont les Kulunas qui font la loi. Et il y a des coins, la journée ou la nuit, on ne peut pas passer. Cependant, l'emprisonnement ou la réintégration au sein des services nationaux de Kulunas a montré ses limites. Et les magistrats en font le fonds de commerce. Il faut créer des emplois et renforcer la sanction. Ou soit, et revenir au système de Kofi inséré autrefois. Merci.
Professeur Yamba Yamba, que pensez-vous de cette réaction d'Alphonse Tchefou?
Merci beaucoup pour notre ami Alphonse. Je voudrais quand même revenir sur ce qui a été avant lorsqu'on parle de la faillite de l'État. C'est grave. C'est grave. La faillite de l'État.
Alors, on a un petit souci avec votre téléphone.
Un instant, alors.
Allô?
Allô?
Oui, ça va mieux.
Ok. Alors, je disais que la faillite de l'État, ça c'est un gros mot, s'il vous plaît. De grâce, faut pas torpiller votre État comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de faillite? Qu'est-ce qu'il y a de faillite dans cet État? Et combien de temps nous avons la responsabilité pour redresser cet État? Non, mon ami, l'État existe. Les problèmes aussi existent. J'entendais notre ami Moulay Kalos qui disait « C'est un phénomène observé en ville, c'est pas un phénomène qui est observé dans les campagnes. » Et les campagnes ne font pas partie de l'État. Vous voyez, ça c'est une conclusion non concluante. Il faut savoir dégager l'ampleur de la chose et savoir proposer des solutions correspondantes. Mais quand on y va dans le sens de dire « Ah, l'État est en faillite, il faut refonder l'État. » Non, 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 mais écoute, ça c'est le concept qui sont utilisés généralement avec un peu plus d'émotions toxiques. Je ne veux vraiment pas insister sur cette question, mais je voudrais vraiment rassurer mon ami Jean-Claude Katende lorsqu'il dit il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. Qu'est-ce que vous appelez politique, mon ami? La politique se construit autour de l'identification des problèmes qui existent. Dans le domaine de la sécurité, on a identifié qu'il y a un problème de Kulunas, il y a un problème de kidnappers, il y a un problème de bandits, il y a un problème d'équipement, il y a un problème de nombre de policiers, il y a un problème de proximité, etc. Ça, ce sont des problèmes qui ont été identifiés, qui font le cœur aujourd'hui dans la politique de la République. Et si mon ami trouve un petit temps, je peux lui donner des documents qui portent la politique générale sur la sécurité de notre pays. C'est sur base de cette politique que l'on a estimé que les différents services de sécurité, certainement, ont travaillé, il y a des résultats, mais ça ne suffit pas. Il faut impliquer tout le monde. Et raison pour laquelle on est allé jusqu'à dégager un nouvel arrangement institutionnel. Cet arrangement institutionnel permet d'associer à la fois le service de sécurité et la population. Quelqu'un disait que bon, il faut la base. Oui, c'est la base. Mais on vous dit qu'au niveau local, il existe un comité local de sécurité. Ça fait partie de la politique de la gouvernance sécuritaire. Et à ce niveau-là, on identifie le service de sécurité, on identifie les autorités locales, on identifie le corps intermédiaire, ce qui se passe à longueur de journée pour construire la sécurité au niveau de la société civile. Et ces différents acteurs font partie de ce comité de concertation, de recherche d'informations, de renforcement mutuel. C'est ce comité qui travaille dans le sens d'identifier même ce sont des hommes et des femmes qui sont dans le quartier, qui sont dans le parterre, et savoir qui ils sont, d'où viennent-ils, etc. Ce travail est en train d'être fait. C'est très important. Moutantis, Moutandis, au niveau de la province, il y a un comité provincial, et dans toutes les provinces de la République, certainement que ça se fait avec un peu de retard, c'est évident, mais au moins, c'est structuré, et c'est en fonction véritablement de la politique qui a été mise en place. Alors, lorsqu'on dit rien n'existe, non. Mais comment vous avez observé cette histoire de Kanyamaka TC? Ça fait partie des approches globalisantes, telles que mon ami Monica le disait. Kanyamaka TC ne constitue pas le seul fait. La perspective, c'est qu'en fait, on puisse démocratiser ça dans les différentes provinces, pour que cette province s'occupe de l'intégration, de la socialisation de ces différentes situations anormales. Mais je voudrais terminer en disant que, même dans nos campagnes, parce que la question de l'insécurité ou de Kuluna aujourd'hui, vous arrivez dans des territoires, moi je suis candidat à l'intérieur, j'ai vu, il y a de différentes formes de Kuluna au niveau de l'intérieur. Et mon ami Katené avait raison de dire, il faut du travail, il y a des chômeurs qui sont fondamentalement
professeur, on va vous donner la parole tout à l'heure pour conclure. On va vous redonner la parole pour conclure, professeur. Ne vous inquiétez pas. On va se rendre à Chabunda, au sud Kivu, pour écouter cet autre auditeur.
Maître Davidi Masandi Chabani, depuis Chabunda, au sud Kivu. Cette recrudescence est la conséquence logique du chômage des jeunes. L'État congolais n'a pas une bonne politique de création d'emplois. Une mauvaise vision pour soutenir certains jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Sûrement, la volonté politique y est dans les secteurs agro-pastoral. C'est embaucher tous ces jeunes. Le fait de les mettre en prison, à mon humble avis, ne doit pas résoudre les problèmes. Plutôt, le gouvernement congolais doit assumer ses responsabilités en créant des emplois et se crédibiliser aux investisseurs nationaux ou étrangers en mettant en place un bon climat d'affaires. Cette insécurité n'est pas seulement à Kinshasa, mais se constate presque dans toutes les villes de la RDC.
Brève réaction, maître Jean-Claude Katendi.
Très bien, merci. J'aurais bien voulu, avant de répondre, de réagir à cette intervention, demander à M. Yamba de nous dire qu'est-ce qu'il en est de la conscience entre la police et la population, parce que c'est quand même important. Maintenant, ma réaction à ce que venait de dire l'auditeur tout à l'heure, il a raison et je l'avais souligné. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'il a dit, je peux dire que la solution de la sanction par la justice, c'est déjà une solution.
mais il faut en ajouter d'autres, notamment trouver du travail pour les jeunes. Mais vous allez constater qu'aujourd'hui, parce que c'est l'administration publique qui est grand employeur en République démocratique du Congo, les gens sont recrutés sur base d'appartenance à des partis politiques. Les gens sont recrutés dans les partis politiques pour entrer dans tel ministère ou dans tel autre. Mais les jeunes qui ne font pas partie des partis politiques, comment ils vont être recrutés? C'est là la question fondamentale. Il faut qu'on respecte les lois de la République, que les emplois soient ouverts à tout le monde, que les gens puissent compétir et qu'ils soient évalués de la bonne manière pour permettre à ceux qui ne sont pas aussi dans les partis politiques d'accéder à la fonction publique. Donc c'est une question importante. Au-delà de ça, je suis revenu sur d'autres solutions. Il faut travailler sur la confiance entre la police et les citoyens.
Maître Jean-Claude Katende, alors désormais tout bandit urbain, Kuluna arrêté, passera devant la justice militaire, a fait savoir le commandant de la police nationale congolaise de la ville-province de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimba Limba. Alors, il a affirmé que cette mesure est prise pour lutter efficacement contre le banditisme urbain qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que cela serait une solution?
Ce que j'en pense, c'est que le général doit pouvoir rester dans la loi. Il n'est pas permis à la justice militaire de s'occuper des civils, sauf si ils ont commis des infractions ensemble avec les agents de l'ordre, la police ou les militaires, ou s'ils ont utilisé les effets militaires. Violer la loi, c'est créer un autre problème. Je pense que le problème n'est pas au niveau de la justice militaire ou justice civile. Le problème, c'est que ceux qui gèrent la police, ils doivent être sérieux. On a parlé tout à l'heure du fait que certains parquets font du phénomène Kuluna un fonds de commerce. On arrête les gens, on les amène là-bas parce qu'ils paient 200 ou 300 dollars, on les libère, en oubliant que c'est un danger pour la société. Donc, j'estime personnellement que ce n'est pas une question de justice militaire ou justice civile, c'est une question que les magistrats qui soient militaires ou civils doivent prendre conscience que c'est un phénomène contre lequel il faut lutter. Merci. Et qu'il ne faut pas accorder la liberté provisoire, mais tout simplement parce qu'on a besoin d'argent.
On va prendre ce dernier auditeur de Kinshasa. Est-ce qu'il est en ligne, Serge Sapou? Voilà, il est en ligne.
Serge Sapou depuis Kinshasa. La recrudescence, je trouve ça comme un concept d'ailleurs très mal choisi, car depuis la genèse du phénomène Kuluna, l'État congolais est impuissant, incapable, avec une justice corrompue, manque de politique criminelle pouvant permettre à mettre ces criminels hors état de nuire. Ces derniers extorquent, tuent, violent jour et nuit aux vies et aussi de la police et autres autorités municipales.
Christian Molika.
Je crois que l'auditeur a rejoint ce que nous sommes en train de dire, même si le DIRCAB semble ne pas accepter le concept de faillite de l'État. Et peut-être c'est qu'il faut constater que l'État est en faillite. Monsieur le DIRCAB, comment vous pouvez expliquer que les policiers aient des armes qui ne tirent pas? Vous avez un policier de la République qui descend sur le terrain, il a une arme qui ne tire pas. Comment vous expliquez qu'on recrute des personnes au niveau du commissariat, qui ne sont pas policiers, qui sont civils, qu'on appelle parfois anti-gang, mais qui se retrouvent en tenue accompagnant la police? Comment vous expliquez que la nuit, vous venez trouver un policier, pour venir intervenir, il vous dit qu'il garde les motos, et qu'il ne peut pas quitter le poste parce qu'il garde les motos? Ce sont les éléments de la défense de l'État, il faut le reconnaître. Le premier diagnostic intervient quand on reconnaît le problème. Si on refuse de reconnaître le problème, le diagnostic ne va pas se régler. Il y a un vrai problème d'État, fondamentalement d'État, qui n'est pas forcément lié à votre gouvernance, à votre gestion, mais qui est lié à comment nous avons, durant de longues années, participé, nous tous, à affaiblir l'autorité de l'État.
Qu'est-ce qu'il devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ou qu'est-ce que l'État devrait faire pour atténuer ce
concernant,
phénomène?
Concernant ses compétences à lui, il faut déjà plus d'effectifs de la police. Il faut plus de formation. La CAPOL existe. Monsieur Dirkab, donner les ressources à la CAPOL pour qu'on forme plus de policiers. Il faut aller jusqu'au bout de la réforme de la police. Cette réforme de proximité-là, c'est encore sous les papiers. la réalité sur le terrain n'est pas effective et opérationnelle. Et ça ne doit pas se limiter au niveau de la commune, parce qu'il y a des forums de quartiers à mettre en œuvre. Descendez jusqu'au niveau le plus bas. Ensuite, au-delà du côté la police, vous êtes de l'intérieur. La petite territoriale intervient. Les quartiers interviennent. Mais si les chefs de rue qui se plaignent chaque jour, qui passent dans les médias pour dire qu'ils ne sont pas pris en charge, ils n'ont pas de statut, ils sont impayés. Ministère de l'Intérieur, prenez en charge le chef des rues. Parce que l'information sécuritaire part de la rue. Les Koulouns habitent les rues. Et c'est l'ensemble des rues qui forment le quartier, l'ensemble des quartiers, la commune, l'ensemble de la commune, la ville et ainsi de suite. Donc si nous ne prenons pas en charge la rue où habitent les Koulouns, en prenant en charge ceux qui sont chargés veiller sur la rue, à savoir le chef de rue, mais nous manquons un pas important dans la chaîne de la sécurité. Cette réponse territoriale, ça dépend de vous, ministre de l'Intérieur. Ce sont des réponses que vous devez prendre. Après, il y a d'autres secteurs. On a parlé du sport. Pour moi, j'ai parlé du sport. L'éducation non formelle, l'alphabétisation, l'équipement, l'ITIPER, rééquilibrer le développement. Nous avons un modèle de croissance qui repose sur les mines. Les mines ne créent pas de l'emploi. Si nous voulons créer de l'emploi, il faut trouver des modèles de croissance qui créent de l'emploi à partir de la manufacture. L'industrialisation. Nous créons de l'emploi de haute qualification. Ça veut dire si on crée, on fait le code de l'assurance, on libéralise l'assurance, ce qui trouve l'emploi dans la banque, l'assurance, la télécommunication, ce sont des gens d'emploi qualifiant. C'est-à-dire qu'il faut avoir des diplômes de haut niveau. Ça ne règle pas le problème d'en bas.
Il faut
créer de l'emploi pour les citoyens de lambda et donc de l'emploi à travers l'industrialisation et la manufacture. Et pas uniquement se fonder sur les mines et cette économie des cueillettes que nous avons jusqu'à aujourd'hui.
Merci Christian Molika, merci Amir Hadji Kabemba qui nous suit depuis Kigali. Voilà, vous êtes très très nombreux à nous suivre. Merci à Wedi Wedi qui nous suit depuis Kinshasa, à Sébastien Lumbala, qui pour moi il n'y a même pas de problème de se faire souffrir, c'est juste un problème de bien payer les policiers. Vous-même, vous allez voir comment le problème sera réglé. Merci beaucoup. Professeur Yamba Yamba, votre conclusion, très très rapidement, parce que nous sommes à la fin de l'émission, vous avez 40 secondes.
Non, je continue à insister qu'il n'y a pas faillite de l'État, parce que lorsqu'on fait la quantification des différents espaces géographiques de la République, que ce soit les villes, que ce soit les provinces, que ce soit les territoires, etc., les nombres de territoires ou d'entités qui a des problèmes est supérieur par rapport là où le problème se pose. Et on ne peut pas parler de la faillite de l'État. C'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais...
Il y a même confiance entre la population et la police.
La complicité entre la population et la police, certainement que c'est une douleur d'enfantement. Le travail se fait dans le sens de la formation des policiers. Vous savez qu'on a recruté 13 000 policiers qui sont véritablement en stage, qui devront être disséminés à travers le pays. On continue encore à faire le recrutement. Donc, on ne peut pas, pour un État qui est en faillite, commencer à poser des actions pour des rectifications. Je voudrais également rassurer que lorsqu'on fait des propositions, ne soyons pas dans les concepts, sinon on risque d'aller dans les sens des anciens enseignements matérialisés. Vous dites l'industrialisation, vous dites la manufacture, c'est très bien, mais en ayant délai relativement court, on sait comment. Quand on dit non, il faut créer de l'emploi, qui crée l'emploi? C'est l'État ou ce sont des privés? Et l'État, quelles sont les responsabilités? Non, mes frères. L'État en fait ce qu'il pouvait faire et continue à faire ce qu'il peut faire. Pourquoi on a créé la Banque de développement rural? Pourquoi on a créé le fonds de garantie?
Merci.
C'est justement pour permettre à qu'il y ait des entrepreneurs et ces entrepreneurs vont permettre le recrutement des gens. Donc, quand vous dites que l'État est en faillite simplement parce qu'il n'y a pas de politique, parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce que. Non. Il y a des actions qui sont posées qui sont préalables par rapport à la redynamisation de l'État.
Merci, professeur.
Et moi, je considère que dans les délais relativement courts, toutes ces choses-là seront maîtrisées.
Merci, professeur. Jean-Claude Katendi.
Très rapidement, madame, je vais le dire encore que l'État congolais est en faillite. L'insécurité n'est pas seulement dans le grand centre urbain, l'insécurité est partout. Les Mobondo ne sont pas seulement dans les environs de Kinshasa, mais ils viennent de localités éloignées. L'insécurité est partout. Et donc aujourd'hui, nous ne sentons pas que des mesures sont prises de manière holistique, de manière globale, pour trouver des solutions. Mais entre-temps, il faut dire que ce qui est en train d'être fait maintenant par les généraux et la police, en arrêtant tous les Kulunas qu'on a vus à la télévision, c'est une bonne action. Nous souhaiterions que cette action soit suivie de telle sorte que ceux d'entre eux qui vont être condamnés aille exactement en prison.
Merci, maître Jean-Claude Katené. Merci également à ces nombreux internautes qui nous ont laissé leurs commentaires. Tichou Gismaël, depuis Bukavu. Merci beaucoup. Clément Mwanza Bandé, depuis Lumumbashi. Teosubi, depuis le Nord Kivu. Aruna Moussehenu, depuis Dr. Aaron Vumbi, depuis Kolwezi, Elvis Kiaoya Londola, madame chez nous dans le district de Moramba, précisément dans la commune de Kinsenso, même en pleine journée, aussi dans la commune de Matete, précisément dans le quartier Vitamine, ça devient une habitude. C'est un auditeur qui nous écrit de Kinshasa, Elvis Londola. Merci beaucoup, vous êtes très 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 nombreux à rester scotchés hein, sur la page Facebook, être scotchés sur la page Facebook et la page YouTube de Radio Capu pour suivre cette émission Dialogue en Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Guy Maté, Alain Goy, Jonathan Falani, Clément Timanga, Hervé Voka, présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite sur le programme sur la fréquence de la paix.